Vous écoutez
RMC.
On va, messieurs, effectivement parler des petites pépites des différents championnats. Mais puisque les présentations sont terminées, on a quand même envie de parler de Kyle Walker. Julien.
Ah, il faut Timothée, parce qu'il a quand même réussi l'exploit ce matin, Kyle Walker, d'être sur la une de deux tabloïds pour deux raisons différentes. La première, on va commencer, puisque c'est quand même la grosse histoire de la semaine, c'est que mardi soir, en pleine période de confinement, même à Manchester, là où il réside, il a fait venir chez lui un ami à lui. Joueur de Manchester City, il a fait venir chez lui dans son appartement luxueux du centre-ville de Manchester, un ami à lui et surtout deux escort girls qu'ils ont payé tous les deux 2 500 euros pour 3 heures en plein confinement. Et bien sûr, une des escortes a raconté l'histoire au Sun comme la tradition le veut, comme la tradition le veut en Angleterre. Et donc notre ami Kyle Walker s'est bien fait piéger. Elle a pris des photos en plus, donc même s'il avait voulu dire que c'était pas lui ou que au début, il a voulu se faire appeler Kai, et puis à un moment, elle s'est rendue compte quand même que Kai, c'était Kyle Walker, et que c'était un joueur de foot très connu, international anglais. Et donc, forcément, du côté de Manchester City, et même du côté anglais en général, dans cette période très difficile, ça a beaucoup de mal à passer. Et puis en plus, l'autre une de tabloïd, c'est parce que l'été dernier, alors qu'il était encore avec sa femme, la mère de ses trois enfants, il avait mis enceinte une autre mannequin, mais il refuse de reconnaître la paternité du futur bébé. Et donc ça faisait aussi la une d'un autre tabloïd ce matin en Angleterre. Donc voilà, Kyle Walker, un dimanche à oublier pour lui, une semaine à oublier, je pense.
Ouais, voilà qui est dit. On préfère relayer les bonnes actions de différents footballeurs. Il y en a pas mal en Angleterre. On va se pencher sur le sujet pour lequel on vous a demandé de nous rejoindre, cher drôle de dame. C'est ces petites pépites françaises qui sont en train de pointer le bout de leur nez. Et tiens, puisque tu as la parole, Julien, tu vas la garder pour nous parler d'un joueur, allez, qu'on connaît en France mais qu'on n'attendait peut-être pas à ce niveau-là.
Tu as raison, Timothée, c'est Neil Maupay. On aurait pu vous parler du jeune Hudson Edouard, l'ancien joueur du PSG, qui était parti très jeune au Celtic Glasgow en Écosse, et qui est en train de faire une super saison avec 20 buts en 26 matchs de championnat. Mais on va parler de Neil Maupay, parce que lui, il est en Première Ligue. C'est un championnat quand même beaucoup plus compétitif que la Première Ligue écossaise. Et c'est vrai que Neil Maupay, qu'on avait oublié un petit peu peut-être en France, après ses débuts fracassants, rappelez-vous, à 16 ans avec Nice et Claude Puel. Et puis après, il s'était un petit peu perdu, d'abord à Saint-Etienne. Il avait rebondi ensuite à Brest en Ligue 2, et puis il était parti à Brentford, où la saison dernière il fait une saison exceptionnelle en championship, en deuxième division anglaise, avec 25 buts de championnat. Et un départ donc à Brighton pour découvrir la Première Ligue à 23 ans, puisqu'il aura 24 ans simplement au mois d'août, donc il est encore assez jeune. Et puis fin de saison, une première saison donc pour une saison de découverte en Première Ligue, assez satisfaisante. 8 buts, 2 passes décisives pour l'instant, dans une équipe qui joue bien au football mais qui parfois est un petit peu légère, notamment défensivement, donc a un petit peu du mal notamment pour enchaîner les victoires, et qui va se battre jusqu'au bout pour la relégation quand le championnat pourra reprendre. Mais c'est vrai que Maupay est une des bonnes découvertes de cette saison pour Brighton, par son jeu déjà, parce que c'est un joueur même qui a pas un gros gabarit pour l'Angleterre, mais qui est très intelligent dans ses mouvements, qui a une très bonne première touche de balle, qui est un bon finisseur aussi, et qui travaille très dur pour l'équipe. Et je pense que cette combinaison là a beaucoup plu à Brighton, c'est pour ça qu'ils sont allés le chercher à Brentford, et que il fait une saison beaucoup plus accompli qu'on aurait pu le penser pour une première saison en Première Ligue.
Jérôme, tu te souviens de Maupay à Nice? C'est en plus un petit gabarit. Ouais. En général, on a tendance à penser qu'en Angleterre, ça peut être compliqué. T'es surpris?
Bon, écoute, oui, agréablement surpris, parce que bon, on peut pas s'imaginer, en effet, hein, Julien rappelait son parcours, mais bon, je dis pas qu'il s'est perdu en France, mais bon, il jouait quand même en deuxième division, donc un petit peu oublié des clubs de Ligue 1. Il a eu du mal, Nice, Saint-Etienne, hein, il est passé par Saint-Etienne aussi, c'est ça, hein?
Oui, absolument,
ouais, Saint-Etienne. Tout à fait, ouais.
Ouais, donc il a eu énormément de mal. Alors après, il faut aussi accepter le fait de, quand tu démarres très jeune comme ça, tout le monde, les feux des projecteurs sont sur toi, ça peut être difficile aussi de garder les pieds sur terre. Il s'est certainement oublié, il a eu l'intelligence de rebosser, il a fait vraiment des bonnes choses à Brest. Moi j'en avais entendu parler avec des joueurs qui l'ont côtoyé à Brest, qui aujourd'hui joue en première division. Il a tenté l'aventure en Angleterre. Quand tu mets 25 buts, même si c'est en deuxième division anglaise, faut les mettre dans un club qui est pas le meilleur club de premiership, de championship plutôt. Donc là, il est à 8 buts dans une équipe qui galère, comme l'a dit Julien. Moi, j'aime bien parce que il est intelligent dans ses déplacements, parce qu'il va vite, parce qu'il est assez adroit devant le but. Donc voilà, c'est des forces, la confiance, la sérénité. Là, il commence à se faire faire connaître. Il a eu l'humilité de bien se remettre au travail. Je pense que il va pas s'arrêter là. Et vous verrez dans un an, peut-être dans deux ans, ça sera peut-être une bonne opportunité pour un bon club de première ligue. J'en suis persuadé.
Quel âge il a actuellement là ?
24 ans.
23.
23, ouais, 24. Moi, 24 ans, mois d'août.
Ouais, c'est quand on parle de pépites françaises dans les clubs étrangers, j'aurais pas été sur un île Mopé, moi, mon juge, je te le dis. Je pense que c'est pas une, enfin c'est plus en tout cas une pépite. C'est quelqu'un qui aurait pu l'être. Je suis d'accord avec tout ce que Jérôme vient de dire. Moi, j'avais rencontré son papa à l'époque où il était à Saint-Étienne, on n'a jamais travaillé ensemble, mais j'adore ce joueur. Je l'adorais déjà avant, très très précoce, etc. Mais je pense qu'effectivement, il a perdu beaucoup de temps. Alors soit en faisant des mauvais choix, soit avec un peu de blessure. Il a gardé ses qualités, il revient sur le devant avec un club comme Brighton. La seule différence, moi, mon jet, c'est que je suis pas persuadé qu'il aille dans des grands clubs de première ligue. Honnêtement, moi, je pense qu'il va être un bon attaquant de première ligue dans des clubs de seconde partie de tableau. Voilà, pour ce qui est déjà pas mal, ce qui est bien déjà.
Non, mais
quand je disais, c'est pas à 24 ans quand tu reviens faire une bonne saison à 24 ans. Pour moi, c'est que c'est quelqu'un qui a 17, 18, 19 ans commence déjà à être titulaire. Dans son club, en première ligue, en Bundesliga, en Ligue 1, où tu veux. Quoi.
Merci beaucoup, Julien, pour cette démonstration. On va passer la parole à Paulo Breitner. Paulo, toi aussi, en Allemagne, il y a un joueur qui t'est, ouais. Voilà, que le grand public ne connaît pas forcément et qui commence à se faire un nom.
Alors, déjà, il y a beaucoup de personnes qui se perdent à Saint-Étienne, mon cher Timothée. J'en fais partie. Non, je vais vous parler de quelqu'un qu'on a un peu perdu de vue en France et qui a échoué, on va dire, à Monaco et qui est arrivé un peu dans l'anonymat général au mercato hivernal de l'année dernière. C'est Almami Touré. Qui est arrivé à Francfort pour presque rien, 750 000 euros. Lorsque je le vois arriver, je regarde l'effectif et vont de Francfort, je me demande ce qu'il vient de faire là, parce que tous les postes, à l'époque étaient déjà doublés. En plus, il n'était pas opérationnel physiquement parlant. Alors là, il va sur ses 24 ans, hein, donc j'anticipe ce que va dire Pierre. Évidemment, j'aurais dû vous parler de Nkunku ou de Diaby, mais on en a beaucoup parlé, donc on va parler d'un joueur qui est un peu moins connu, mais qui pour moi est en train de s'installer durablement en Bundesliga, en tout cas. À Francfort, c'est Almami Touré. Au départ, on va dire qu'il est là pour faire le nombre, pas grand-chose, donc il est super en retard physiquement parlant. Il est polyvalent, donc on se dit soit chouette, il va boucher les trous quand il va y avoir des blessés ou des suspendus. Puis rappelez-vous, l'année dernière, Francfort, hein, c'est quand même demi-finaliste de l'Europa League, ils sont forcés de jouer quasiment tous les trois jours, et donc on se dit qu'il va jouer un petit peu. Donc il joue un petit peu, mais rien d'extraordinaire. Et puis cette saison, début de saison, ça recommence, on le voit pas forcément titulaire, et puis surtout, on jouait dans une défense à 3 à l'époque à Francfort, et on le voit petit à petit rentrer à 18h, lui donne sa chance, à tel point qu'il va s'installer dans cette défense à 3 et il va surtout, dans un match contre Leipzig, mettre un but extraordinaire qui montre qu'il était en pleine confiance. Et puis là, tu te dis, hop, mince, hop, le mercato est arrivé, le hiver est là, et hop,
c'est lui qui met la superbe frappe contre Leipzig.
Ouais, et donc, tu vois qu'il était en super confiance. Et puis, qu'est-ce qui se passe derrière? À 18h, voit que ça marche pas en ce moment, Francfort. Bon, ils ont perdu des joueurs et tout ça. Donc, il repasse dans une défense à 4 et là, tu te dis, bon, il y a Da Costa qui est là quand même, ça va être dur de le loger. Et ben non, à 18h, décide à nouveau de mettre Touré au poste d'arrière droit et il l'occupe. Maintenant, il est devenu le titulaire à la place de Da Costa, à la place de Chandler, qui est quand même le titulaire historique, même s'il a eu une longue blessure. Et finalement, c'est une vraie bonne nouvelle parce que il a encore un contrat jusqu'en 2023. Il a sa polyvalence qui le sert. Il dit jamais rien. Il joue maintenant quasiment tous les matchs. En tout cas, il est le titulaire dans le 11 de départ. On peut encore une fois trouver ça un petit peu surprenant lorsqu'on voit l'effectif de Francfort en ce moment. Mais lui, il a saisi sa chance et il a réussi son acclimatation en Allemagne.
Merci beaucoup, Paulo. Ouais, c'est un joueur qui avait attiré votre attention, messieurs. Pierre.
Non, mais moi, si je peux rajouter quelque chose, c'est justement, tu vois, le parcours d'un joueur peut te changer un petit peu la perception que tu en as. Parce qu'effectivement, t'as raison, Polo, il a le même âge qu'un Nil Mopé, quasiment. Et pourtant, t'as plus l'impression qu'il débute, parce qu'on l'a pas vu avant au plus haut niveau. Alors qu'un Nil Mopé, on l'a vu, il a disparu, il est revenu, et finalement, t'as peut-être raison, mon jeu, après tout, pourquoi pas. Laissons Ougé, je sais plus lequel des deux disait qu'il jouera, qu'il a encore une marge de progression. Nil Mopé, sans lui le temps, comme à Touré, qui effectivement, je suis d'accord avec Polo, est un très très bon défenseur.
Lionel, quand tu le voyais évoluer avec Monaco, est-ce que tu l'imaginais s'installer
perdu
en Bundesliga?
Ouais, à Monaco, c'était un échec pour moi. Il a jamais trop attiré mon attention à Monaco. Et là, comme disait Polo, quand tu le vois,
il a joué beaucoup.
Transcendant. Pas transcendant, franchement. Enfin, moi, il a pas attiré mon attention en 10 ans. C'est-à-dire, il avait 22 ans quand il jouait à Monaco.
Ouais, 20. Ouais. Mais après, il y avait un effectif important.
Regarde, à Francfort, c'est la même chose. Mais je pense sa grosse force, comme le dit Polo, ça a été une force mentale, savoir se remettre en question, subir un échec comme ça, c'est jamais facile. Et lui, il est parti tenter l'aventure à Francfort, et il y avait de la concurrence, et malgré tout, comme à Monaco, moi je trouve, parce que cette équipe de Francfort, elle a vraiment un bel, enfin coupe-moi si je me trompe, Polo, mais vraiment un bel effectif fourni, et lui, maintenant, c'est honnêtement un titulaire indiscutable.
Il avait disputé 50 matchs au total avec Monaco, c'est quand même pas mal.
Surtout la dernière saison avant d'être transféré au mercato hivernal à Francfort, il joue quasiment pas. Donc
il jouait pas.
Il n'est plus rien. Et Francfort a fait une superbe opération au passage, parce que 750 000 euros, si on suit ce que dit la presse, c'est de la rigolade aujourd'hui.
Si je vous vends 750 000 euros, c'est qu'il y a des raisons. Donc pour Monaco, ils étaient bien contents de les prendre, je pense.
Il en voit à peu près 10 fois plus aujourd'hui. Mais ce qui tronque en tout cas, ce qui nous donnait cette impression de jamais avoir passé le cap, c'est que tous les ans il joue à Monaco, mais tous les ans il joue entre 10 et 15 matchs, pas plus. Et donc t'as cette impression de joueur qui arrive pas à s'imposer finalement. Ce qu'il est en train de faire là à Francfort.
L'année où ils sont champions, et si je me souviens bien, l'année où ils font la Ligue des Champions, ils jouent quand même beaucoup de matchs. Cette année-là, c'est là qu'on le découvre un petit peu au plus haut niveau.
Quelle année déjà?
C'est à 3 ans, c'est ça?
2016-2017
2017 avec Jardim,
ouais.
2017
avec
Jardim, ouais. 15 matchs. Ouais, c'est ça, c'est là qu'on le découvre.
Ouais. Ça veut dire que c'est un remplaçant qui rentre dans le turnover.
À Pierrot, je suis pas en train de dire que c'était un titulaire indiscutable. C'est là qu'on l'a découvert. Je trouve qu'il a vraiment des grosses qualités en tant qu'arrière droit de bon défenseur. Il a pas un mauvais pied quand il prend son couloir. Après il fallait qu'il progresse, et je pense que ça passait aussi, vu que il était un petit peu sur la fin à Monaco, pas dans les plans de l'entraîneur non plus. Ça a jamais été un titulaire indiscutable. Il fallait qu'il découvre une autre culture, un autre championnat. Là il s'est remis en selle, et puis là il est en train de grimper tranquillement, de progresser, d'aligner les bonnes performances. Alors moi, je fais confiance à Polo là-dessus, parce que j'ai pas vu énormément de matchs de lui cette année, mais je pense que s'il joue autant, c'est qu'il est satisfaisant, et qu'il arrive il a réussi à faire plaisir à l'éditeur.
Oublions pas, c'est un ancien U21 français quand même, donc ça veut dire quand même quelque chose. Si t'es choisi après les trajectoires de carrière, c'est toujours un peu compliqué. Mais si tu vas chez le U21, c'est pas neutre non plus. Mais il a surtout mis Da Costa sur le banc, qui plombait tout le monde depuis 2 ans. Chandler, il revient de blessure, il est pas titulaire non plus. Il prenait sa place dans défense à 3, c'était pas évident. Il y a quand même Hinteregger qui est là, il y a Abraham, le capitaine, qui est là. Il y avait Azebe qui avait été replacé en défense centrale, etc. Donc c'est vraiment pas neutre ce qu'il fait. Alors évidemment, moi j'espère une saison complète, parce que il a été embêté un petit peu par des petits problèmes physiques, etc. Et puis encore une fois, il y a cette concurrence. Et puis Francfort en ce moment tourne pas. C'est encore une fois, je crois que c'est Lionel qui l'a dit. Jérôme. C'est un bel effectif, mais le problème c'est que ça tourne pas en ce moment. Mais ça, c'est un autre problème. Ce qui est bien, c'est qu'il arrive à s'implanter. Et je trouve que c'est pas neutre. C'est-à-dire qu'il faut, pour moi, je lui tire mon chapeau, parce que quand tu vois l'effectif, c'est pas évident.
Mais parce que mentalement, Polo, excuse-moi, je pense que mentalement, il a été pris aussi différemment en Allemagne. C'est-à-dire que les défenseurs, notamment qui arrivent de France ou français, ont une très bonne considération de la part des entraîneurs en Allemagne. Ça, Polo.
Ah ouais, mais ils sont jeunes aussi, c'est-à-dire qu'ils écoutent. Moi, je vois, il y a Ndika, on parle pas souvent de Ndika qui est à Francfort aussi. Il a 20 ans, on voit comment les Allemands les font progresser. Lui demandons pas d'être titulaire. Là, il l'a pris parce qu'à 18 heures, en passant à 4 et à 16 de passer de le mettre arrière gauche. Bon, quand même, il fait presque 2 mètres, donc c'est un peu compliqué, mais il est pas neutre, il va assez vite, etc. Il a un relativement bon pied gauche. Bon, il a 20 ans, on va pas lui demander non plus d'être le plus grand défenseur central du monde, mais tu vois comment ils font progresser les petits jeunes, etc. Donc ça veut dire que pendant un trimestre, il faut c'est tout ça. Moi, pour simplifier ce qui se passe en Allemagne avec les jeunes, en gros, ils vont avoir le temps de jouer pendant un trimestre. Et pendant ce trimestre, faut qu'ils fassent leurs preuves. Sinon après voilà, donc les mecs, faut qu'ils aient le nez dans le guidon. Il y a des joueurs blessés, ils sont souvent là en deuxième rideau entre guillemets derrière les titulaire, mais il faut prendre la chance quand elle est là, quoi.
Merci Polo. Avant de passer à la dernière pépite, celle de Fred dans le championnat espagnol, le Français qui se fait une petite place, une petite information qui nous vient de la RAI en Italie. Gabriele Gravina, le président de la fédération italienne, a signalé aujourd'hui sur le et a insisté sur le fait que la Serie A devait à tout prix se terminer, quitte à ce que ce soit conclu en septembre ou en octobre. Voilà, encore une déclaration, on en a assez largement parlé au début de cette émission. Alors Fred, on continue sur ces pépites, c'est peut-être pas le mot là, les jeunes pépites, Pierre avait raison. En tout cas sur ces joueurs qui étaient un petit peu hors radar et qu'on voit réapparaître dans des championnats et dans des équipes auxquelles on ne s'attendait pas forcément.
Ah ben, j'aurais pu vous parler d'un Normand qui s'appelle le Breton, je vais plutôt vous parler d'un Breton qui s'appelle le Normand. Robin le Normand, 23 ans. Alors,
vous connaissez messieurs ? Est-ce que quelqu'un connaît Robin le Normand ?
Personnellement, non.
Voilà.
Ben voilà, je vous dis, ce garçon est depuis cette saison titulaire dans l'équipe qui joue le plus beau football de la meilleure Liga du monde, la Liga Española, puisqu'il est défenseur central de la Real Sociedad. Alors, je vais vous dire, je le connaissais pas bien non plus avant le début de cette saison, et pourtant je suis ici. Bon, il faut dire que Robin Lenormand, les supporters du Stade Brestois s'en souviendront peut-être, il était formé là-bas, donc je vous dis, c'est un Breton, il était formé à Brest, il a joué avec l'équipe.
On connaît bien son père, nous, ici.
Ça, oui, tu
Gérard.
Connais.
Gérard,
ouais. Ah oui,
c'est fait.
Non, mais ah, pardon, Gérard le Normand. Oh là là. Oui, ça, oui, le petit dauphin et tout ça. Oui, bien sûr. Voici les clés de ton bonheur. Il n'attend plus que toi.
On vit de toi.
Voilà, donc on revient avec le cousin, avec le fils, donc qui n'est pas le fils de Gérard le Normand. Donc, il joue quelques matchs en Ligue 2 avec Brest. Et là, il est repéré par un ojeador. Un ojeador, c'est en Espagne, c'est celui qui va repérer des jeunes joueurs. Et il y a un type qui a du nez. Je l'aime bien en plus, c'est un copain, il s'appelle Eric Olatz. Il avait repéré un certain Antoine Griezmann, je sais pas si ça vous dit, un petit gars qui a fait une carrière pas mal depuis. Eh ben, c'était aussi à la Real Sociedad, puisque Eric Olatz est le recruteur pour l'étranger, l'un des recruteurs pour l'étranger, et notamment pour le marché français, de la Real Sociedad. Et il repère Robin Lenormand. Donc, à l'été 2016, il fait un test avec la Real Sociedad, qui a bien sûr ce souvenir d'Antoine Griezmann, en disant, on a une petite pépite là aussi. Alors lui, il n'est pas attaquant, il est défenseur central. Ça se passe très bien. Il joue 2 saisons avec la réserve de la Real Sociedad. Il devait jouer une 3e saison avec la réserve, mais sauf que il y a pas mal de blessures en équipe première. Donc, il fait quelques matchs. Et finalement, cet été, il passe définitivement en équipe première et il s'installe. Il a déjà joué 24 matchs et il est à l'heure actuelle, à l'âge de 23 ans, un titulaire incontournable, j'insiste, de l'équipe qui joue le plus beau football, l'équipe la plus technique peut-être de la Liga. Il est 5e de la Liga, encore en course pour la qualification pour la Ligue des Champions et qualifié pour la finale de la Coupe du Roi, un derby basque, vous le savez, contre l'Athletic Club de Bilbao. Retenez ce nom, Robin Lenormand.
On va le retenir, Fredo. Merci beaucoup, les drôles de dames, d'avoir été là.
Attendez que toi.
Et on se quitte sur cette chanson. Voilà. Allez, je vous en laisse un peu.
Si par malheur, elle nous ferait pas.
Dans cette cacophonie, on revient dans un instant pour le quiz de l'after.
Merci Julien, merci Fredo. Et n'oublie pas la communion de Nicolas. Pas de chance, j'allais t'emmener en Italie.
Voyage jeune amour.
C'était grandiose. Je vous remercie. La pub.
Pas de chance.